Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain avec Aymeric, Virginie, Léo et Loïc Fontaine de l'unité territoriale 716 de l'Office national des forêts. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on rencontre donc Loïc. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Du coup, je suis technicien à l'Office national des forêts. Je suis rentré à l'ONF en 2007. Je suis passé par la Bourgogne, par le centre de la France, et puis je suis redescendu dans le Gard. Puis je suis sur ce poste-là depuis 2016, sur le poste de ce qu'on appelle le poste de Molière sur 16, mais en fait ça vient jusqu'à la commune de Saint-Jean-du-Pin et les communes au sud d'Alès jusqu'à Eusey-les-Bains sur mon territoire.
En tant que technicien forestier, rapidement, c'est quoi ton travail un peu tous les jours ?
Alors c'est assez large. C'est la gestion dans son ensemble de l'espace boisé. C'est pas que la forêt. Donc il y a tous les autres espaces. Alors nous, sur le Rouvergue, on a des particularités dues au bassin des mines, donc il y a des risques aussi. Le tracier d'Alès, que tout le monde connaît, le Mont Ricato, ça en fait partie, les falaises, les ruisseaux couverts. Donc voilà, il y a la surveillance des risques. Juste une surveillance. Après, il y a tout ce qui est gestion forestière avec les coupes éventuellement, la surveillance des coupes, le cadre législatif, et ainsi de suite. Et puis tout ce qui est biodiversité aussi, préservation de la biodiversité, des projets d'accueil du public, la surveillance de la forêt, il y a la chasse aussi, la gestion de la chasse. Et puis tout ce qui est logiquement, tout ce qui est limite et ainsi de suite. À nous de les surveiller et de les vérifier. Quoi.
Voilà. Et du coup, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est bien la forêt publique. Du coup, c'est des forêts domaniales, des forêts communales, peut-être sectionales.
Alors, la forêt domaniale du Rouvergue, ouais. C'est une forêt donc d'État, qui a été créée en 1974 à la suite de l'abandon des mines, en fait, hein, puisque c'était des pins maritimes chez nous pour les bois de mine. Et donc ça a été créé en forêt domaniale et là c'est effectivement, on est quatre à se la partager, elle fait 5300 et quelques hectares. Donc on est quatre agents, moi sur mon secteur j'ai une partie, la partie ouest de la domaniale et après effectivement des forêts communales. Voilà.
Okay. Donc, Et aujourd'hui, du coup, on est sur une de tes missions d'accueil du public. Voilà, alors on est devant des ruines, les ruines du château de Sauvage, donc sur la commune de Saint-Jean-du-Pin. Vous avez créé deux parcours, deux sentiers. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du projet, l'histoire un petit peu du site, pourquoi ce projet ?
En fait, moi, quand je suis arrivé en 2016, que j'ai commencé à faire le tour de mon secteur, je suis arrivé par la piste, j'ai vu ces ruines qui étaient complètement à l'abandon. J'en ai parlé avec les collègues, ils m'ont expliqué historiquement, ils venaient même faire des repas à l'époque, il y avait encore la toiture là sur cette partie-là. Cette partie qui a la particularité d'être en arête de poisson, bâtie en arête de poisson, c'est pour ça qu'on voulait absolument la conserver, c'est une spécificité. Mais le reste de la ruine, effectivement, ce qu'on dit de château de sauvage, en fait, c'est les dépendances. Le château était légèrement plus bas quand il a été complètement détruit. Ça commençait à être un risque puisqu'elle s'écroule. Donc les gens rentraient dedans avec des risques d'éboulement et le mur d'enceinte d'entrée là, risque de s'écrouler. Et donc il y avait un risque pour moi par rapport à l'accueil du public. Donc, et puis en découvrant le site, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'arbres différents, plein d'essences, comme on dit, différentes. Et historiquement, on m'a expliqué, en parlant un peu aux anciens, Madame Granier déjà à l'époque aussi, elle m'avait un peu éclairé sur l'origine du site et cet arboretum, qui est un des plus grands riches de France, mais qui a le mérite d'exister aux portes d'Alès. Là. Mmh. Et je me disais, ce serait quand même une bonne chose de le réhabiliter. Et donc, c'est un projet qui prend du temps.
Oui.
Et là, il y a eu une bonne conjoncture entre ma directrice d'agence, Madame le maire de Saint-Jean-du-Pin.
Julie Lopez.
Julie Lopez Dubreuil, ouais, qui était très motivée, qui a porté le projet aussi.
À la Saglo aussi.
À la Saglo, du coup.
Et le Pays Cévennes.
Et Pays Cévennes, voilà. Et tout ça réuni, l'office de son côté a porté le projet sur un appel à mécénat, qui a abouti, qui a été retenu, et tout ça mis l'un dans l'autre, on a réussi à faire ce projet de réhabilitation du site et de sécurisation aussi d'ailleurs.
Ok, et du coup cet arboretum, quand est-ce qu'il a été créé? On voit qu'il y a, sur le premier panneau là, du site, on voit qu'il y a deux frères qui sont cités, les frères Boissier de Sauvage.
Qui ont donné le nom au site, oui.
Ouais.
En fait, c'était une des bâtisses d'un des frères. Alors, ils ont fait pas mal de métiers. Il y en a un qui était abbé, l'autre botaniste, enfin bon, voilà. Et ils ont habité là, et ils ont fait un, il me semble, aussi le conservatoire de Murier, qui est
d'accord,
plus bas.
Okay.
Ah. Ils ont planté là toute cette partie arboretum.
Ah, okay.
Ça a été les premiers à importer là, et ils étaient en relation avec
Carl von Linné,
effectivement, ils étaient de la même époque.
Vous pouvez expliquer Linné, qu'est-ce qu'il a fait?
Linné, c'est le botaniste danois qui a mis en place, c'est même plutôt le naturaliste, parce qu'il a mis en place la nomenclature binomiale, c'est-à-dire avec un nom de genre, un nom d'espèce, et qui a centralisé un peu toutes les descriptions d'espèces.
Voilà, souvent
dans le monde,
on voit Linné à côté des noms d'espèces latins. Voilà, voilà, donc là c'était avant Linné, et ils étaient en lien avec lui.
Ouais. 18e siècle, c'est deux contemporains qui ont dû transmettre des espèces. Les uns.
Et du coup, qui ont habité dans le coin, qui ont planté l'arboretum.
Ouais, oui, et puis ils étaient en lien avec la fac de médecine, de botanique de Montpellier. Donc il y avait des échanges avec celle de Paris aussi. Donc il y a eu un vrai travail botanique avec des apports d'essence un peu particulières. Il y en a pas mal qui sont mortes aujourd'hui, mais malheureusement, mais on va voir celles qui restent.
Qu'est-ce que vous avez voulu créer ici? C'était quoi vos objectifs?
Alors, l'idée, c'était vraiment que les gens du coin, qui venaient déjà pas mal pour la plupart, ils ont tous une anecdote autour du cèdre, j'ai découvert ça, ou dans la prairie plus bas, c'était qu'ils se réapproprient le site et que le site soit aussi sécurisé. Donc, qui viennent voir, c'est de remettre en évidence ces espèces d'arbres, ces essences d'arbres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici, mais sous forme un peu ludique de petits circuits et d'informations en fait. Il y a deux circuits. Donc, il y a un circuit un peu plus botanique et un peu plus court qui fait 800 mètres à peu près pour une heure de temps si on prend le temps de lire les panneaux. Et un circuit, on va dire, un peu plus forestier. Avec un peu de gestion forestière sur le pin maritime ou les plantations de cèdres, puisqu'on est au cœur de la forêt domaniale quand même, donc autour du site il y a de la gestion forestière. Donc c'était aussi l'occasion, là, le parcours fait 1,6 km, ça doit faire 1h30 en tout. Quoi.
Oui, praticable en famille.
Praticable pour tout le monde. Il y a une partie, il y a un peu de pente, mais enfin c'est tout le monde le fait quand même. Quoi. Voilà, on ralentit un peu le pas, c'est tout. Donc l'idée, elle était là, quoi. C'était aussi que ça puisse servir d'appui à des scolaires, parce qu'il y a pas mal de scolaires qui viennent, d'appui à d'autres structures comme le CPIE ou autre. Enfin voilà, quoi. L'idée, elle était que les gens se réapproprient le site surtout. Quoi.
Et on peut accéder par ici, par où? Comment on vient?
Alors exclusivement à pied.
Ouais.
Voilà. On peut arriver par ce qu'on appelle le bois commun aux portes d'Alès, à la limite entre Alès et Saint-Jean-du-Pin.
Mm-hmm.
Voilà, donc là ça monte, c'est un ancien chemin de débardage qui a été une piste à l'époque, qui a été abandonnée.
Mm-hmm.
Donc voilà, là on arrive par le bas du site, on va dire ça, mais il y a des panneaux d'accueil aussi en bas. On peut arriver par Saint-Jean-du-Pin, par la rue d'Ozas, la route, pardon, d'Ozas. Et puis, on peut arriver par, là c'est un peu plus long, par la Blaquière, donc commune de Sandras, où la piste monte jusqu'au château de Sauvage, en fait. Il y a une trinité des pistes qui se retrouvent, là, et les gens peuvent faire une grande boucle. Il y a plein de randonneurs qui font une boucle, et, voilà.
On va aller découvrir alors ces sentiers. Mais déjà, on peut parler peut-être de cette magnifique chandelle. Alors non, je ne parle pas de bougie, hein. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous décrire ce qu'on est en train de voir là ?
Alors là, c'est un vieux cèdre qui a été sûrement planté en même temps que celui d'en bas que tout le monde connaît, qui a été foudroyé. Alors j'étais pas là quand c'est arrivé, hein, mais qui a complètement séché sur pied. Et qui en fait, on l'a conservé, alors on a été obligé de le mettre un peu en sécurité, c'est-à-dire de couper toutes les branches charpentières qui étaient en débord, qui pouvaient le fragiliser. Mais on l'a conservé au maximum pour expliquer aux gens aussi qu'un arbre mort en forêt, en tant que gestionnaire, pour moi c'est très important de le conserver. Ça a un rôle, ça a une utilité. Et en fait, souvent je le compare quand j'en parle avec les scolaires, c'est un peu un HLM en fait, un immeuble. Donc en fait, dans cet immeuble, à chaque étage, il y a des espèces différentes qui sont afféodées à la hauteur en fait de l'arbre. Et ça fait que plus l'arbre est... On n'aura pas les mêmes insectes sur des arbres fins que sur des arbres gros. D'où l'importance de conserver ces arbres morts et tous les diamètres et toutes les hauteurs. Parce que ça a vraiment un rôle écologique au niveau de notre forêt en elle-même. Il y a des cavités, alors pas forcément spécifiquement sur celui-là, mais de façon générale, il y a des cavités pour les oiseaux, pour les chauves-souris. Il y a plein d'insectes différents, enfin voilà, qui ont tous un rôle à jouer pour que notre forêt soit belle après derrière, quoi.
Alors on va aller explorer tout ça maintenant. On entend plein d'oiseaux là aujourd'hui.
En termes de méthodologie, comment ça s'est passé avec les différents partenaires ? On a déjà évoqué la mairie, il y a les agglos, j'en oublie sans doute. Voilà, comment ça s'est construit un peu tout ça ?
Alors concrètement, après sur le terrain, en amont de tout ça, pour présenter le projet, on a travaillé sur les différents parcours. Donc là, c'est le bureau d'études de l'ONF. En la personne de Lucille Vantard, hein, qui est spécialisée, qui est venue, on a fait un repérage des parcours possibles. On avait déjà en tête plus ou moins les deux parcours. Et là, on les a repérés parce qu'ils n'existaient pas sur le terrain, il a fallu les créer après. Donc on est passé autour des essences qui nous semblaient susceptibles d'être intéressantes, d'autres aussi qui étaient mortes, donc ça nous a fait un premier diagnostic. Et puis on a fait un repérage de l'autre sentier, un peu plus forestier, celui-là. Donc on a décidé de sur quoi on voulait parler, sur quoi on voulait informer les gens et ainsi de suite. Donc là, c'est le bureau d'études, nous, ça j'ai dit, qui s'en était chargé. Et elle a fait aussi toute la conception des panneaux, avec la charte graphique des panneaux. Enfin, un travail remarquable, avec ses idées de fléchage, de parcours, enfin voilà quoi. Donc, et après, une fois que le projet a été présenté et accepté, on a eu aussi des études, d'autres études, qui sont pour les chauves-souris.
Ah oui.
Voilà, c'est pour ça qu'on a pu sécuriser
les ruines du château, chauves-souris, d'accord.
Il ne serait pas impossible qu'on puisse faire une étude sur les points d'eau aussi.
Okay. Des petites mares qu'il y a,
d'accord. Il y a une mare temporaire juste en dessous.
Sympa.
Qui est plus que temporaire certaines fois. Et puis il y a un point d'eau en bas, là, au niveau de la prairie, un petit peu avant la prairie aussi, où il y a de l'eau quasiment toute l'année. Donc,
ok, voilà. Donc richesse...
diversité.
Ouais. Et du coup, là, le rôle... comment l'information après a été communiquée aux habitants pour qu'ils se saisissent des nouveaux sentiers ? Est-ce qu'il y a eu, l'office de tourisme qui a été impliqué ou...
Effectivement, l'année dernière, à l'occasion du lancement du sentier, il y avait les travaux encore en cours. Il y a eu les premières rencontres du tourisme durable en Cévennes qui avaient été organisées par l'office de tourisme de Cévennes Tourisme en partenariat avec le parc national des Cévennes. Et du coup, Loïc, oui, vous aviez présenté le projet à l'ensemble des acteurs touristiques qui se sont rendus à ces rencontres. Donc il y avait des partenaires gardois. Vous aviez fait une présentation aussi au réseau de l'éducation à l'environnement et du développement durable. Qu'est-ce que vous aviez fait aussi l'année dernière ?
On a fait la journée internationale de la forêt aussi sur le site.
Oui, pour l'inauguration.
Voilà. Ça a été l'inauguration en même temps.
Oui, c'était donc le 24 mars dernier, je crois. Il y avait pas mal de monde.
Oui, ça a bien marché. Oui. Oui, il y a eu malgré le fait qu'il faille venir à pied, les gens se sont déplacés assez nombreux.
Ouais, voilà. Super. Et donc on peut retrouver les parcours justement sur les sites de Seven Tourism, site internet, et puis aussi sur l'application de randonnée d'Alès Agglomération, Alès Agglo Évasion. Et voilà, vous pouvez télécharger le parcours du coup et puis venir les découvrir. Et comme chaque émission, eh bien, nos invités n'y coupent pas, le petit mot forestier, Loïc Fontaine, as-tu un petit mot forestier ?
Alors plus qu'un mot, ça va être plutôt une sensation. J'ai eu la chance de faire toutes mes études forestières, je suis descendu dans le sud de la France progressivement, et je crois qu'en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut savoir rester humble. Et surtout à l'heure actuelle, parce que malheureusement, le réchauffement climatique, on en parle, et il s'avère qu'il est vraiment là. Et on a pu, on peut le voir au fur et à mesure que j'avance en âge. J'arrive à le déceler maintenant, on arrive à voir des dépérissements, des maladies ou autres. Donc il est vraiment présent, et je pense que plus aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à observer et qu'on prenne le temps, pour notre forêt, notre diversité.
Merci Loïc.
Et je crois que tu avais une musique à nous proposer pour la petite pause musicale. Outre les oiseaux, Aymeric nous montre les oiseaux.
On a même eu le droit à la chouette hulotte, je ne sais pas si vous avez entendu, là, c'était fantastique.
Loïc, est-ce que tu as une suggestion pour notre petite pause musicale ?
Ça serait la chanson 13 000 heures des Chaka Ponk.
Trop bien, c'est parti.
Oh, j'ai vite compris que j'avais mal atterri sur une drôle de planète, dans un drôle de pays. Les yeux ronds, la bouche paix au spectacle. La récré dans la cour des miracles. Ça j'ai vite compris et tout petit. Quand cet instit salace m'a collé une bonne claque dans la face. Pour marquer le coup, pour laisser sa trace et que j'apprenne la vie. J'ai vite compris que j'avais mal atterri. Et cette prof de gym qui m'a fait faire le cours le cul à l'air. Car mon jogging n'était pas de la bonne matière. Les yeux ronds, la bouche paix au spectacle. À la cour des miracles, j'étais une bête de foire. Un guignol de préau pour que tout le monde se marre. Elle a bien fait le boulot, cette maîtresse de comptoir. Et là j'ai bien compris. Oh là j'ai bien compris.
J'ai compris que ces heures que j'allais passer collé comme un vieux chewing-gum sur une chaise en fer ne me serait jamais rendu. J'ai compris que ces profs, ces anciens enfants avaient décidé de changer de camp et qu'ils voulaient pardonner à ceux qui les avaient offensés en déposant. J'ai compris que ces ex-gosses avaient oublié comme les corps se cassent à 6 ans, à 10 ans. Ce corps qu'on donne à la bonne conscience ne protège pas l'âme des générations futures. Oh, j'ai vite compris que j'avais mal atterri.
Pour ne pas contracter la phoque de pouce et tourner pile comme ces flingues au fil de rue. passion.
If you want a lot of love. J'avais mal atterri, j'ai vite compris, tout petit.
Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Du coup, Aymeric, je crois que tu as repéré une première petite chose que tu voulais nous montrer.
Ben oui, moi, ça fait longtemps que je n'étais pas revenu sur le site et je redécouvre, et ce que j'apprécie tout de suite, et c'est ce qu'on ne se rend pas compte si on ne vient pas sur le site, c'est qu'on est en climat méditerranéen, mais il y a une luxuriance qui est un peu inhabituelle ici, dans cette forêt. C'est par terre, il y a vraiment plein de trucs, quoi. C'est d'habitude, vous allez en forêt... En climat méditerranéen, sur silice, là on est sur des schistes ici, vous n'avez pas grand chose au sol, et là, bon, il y a aussi la proximité des anciens bâtis, mais on est dans un petit vallon, et tout est très très vert, et le sol est quasiment entièrement couvert de plantes, et les premières plantes là qu'on découvre en baladant, je pense que leur présence est complètement liée à la présence d'un bâti. C'est tout simplement la chélidoine et puis la mélisse. Alors la mélisse, faut la sentir hein, pour comprendre ce que c'est. La mélisse, c'est une plante, ça fait partie des simples, hein, c'est des plantes qu'on met en tisane, qui ont plein de propriétés médicinales, dont on peut se frotter le corps si on veut faire fuir les moustiques. Je ne sais pas si ça marche à fond, mais en tout cas, ça sent énormément la citronnelle, la mélisse. Et la chélidoine, c'est la fameuse herbe aux verrues, avec ses fleurs jaunes, là, qui est en pleine floraison. Et ça, c'est typiquement des espèces qui, dans la nature bien sauvage, vous ne les trouverez pas. Elles signent en général la présence d'un bâti, d'une utilisation anthropique d'un coin, soit un vieux jardin, soit... ça va avec. C'est vraiment des plantes qui signent la présence humaine, présente ou ancienne, d'un coin en Cévennes. Ça marche très très bien.
C'est encore un héritage des frères Boissier de Soulages.
Peut-être, ça fait partie de leur jardin, enfin, en tout cas classiquement. Il y aurait une autre espèce, bon, on va en parler plein, mais il y en a plein. Là. Alors là, c'est plutôt sauvage. Dans des coins un peu frais comme ici, on peut avoir des euphorbes. Classiquement, en climat méditerranéen, on a plutôt l'euphorbe carassias. Et puis là, c'est l'euphorbe des bois. Les euphorbes, c'est des plantes que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles ont une fleur qui ressemble à aucune autre. Et puis parce qu'elles ont un lait aussi, un lait toxique. Si on coupe une feuille, on a du lait qui coule. Alors ça, c'est pas du tout radiophonique, hein. Mais ce lait est toxique. C'est le même lait qui sert à faire le caoutchouc. Le caoutchouc de l'EVA. L'EVA, oui. C'est une euphorbiacée, c'est la même famille, donc ça, c'est un cousin de l'EVA qui est là. Et cette anecdote, si je la pousse jusqu'au bout, il y a eu une tentative de culture d'euphorbes, un peu du style de celle-là, pour essayer de récupérer du sucre et de faire une sorte de caoutchouc. Ça, c'était pendant les temps de guerre. Ça n'a pas pris, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune trace de ces cultures, mais voilà. C'est ça que j'aime bien, moi, dans les végétations périurbaines, si on peut parler comme ça. C'est pas vraiment urbain, mais en tout cas, il y a un bâti et il y a des plantes qui signent la présence de l'homme ici. On va continuer l'exploration, j'aime bien.
Et derrière toi, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un pin de Salzman? Mais là, Loïc pourrait peut-être nous dire si c'est...
C'est probable. J'ai un collègue un peu spécialiste du pin de Salzman qui m'avait dit qu'effectivement, c'était probable, mais après on a beaucoup de mal à le reconnaître, le pin de Salzman. Surtout là, il est un peu particulier, il n'a pas un port très forestier. Mais
bien penché, tout tordu là.
Oui, et puis même la branchaison est pas bon. Mais effectivement, oui, ça peut en être un.
Et on n'est pas habitué, les pins de Salzman en Cévennes, les seuls endroits où ils ont résisté, ces endroits très pauvres, et c'est souvent des arbres très rachitiques qui font maximum 30 cm de diamètre. Celui-là, il a dépassé les 50 cm de diamètre, il est vraiment costaud.
Et comme un arbre
Normalement un arbre forestier qui marche très bien en Espagne. Il y a des grandes forêts de pins de Salzman.
Et, il y a 350
chez nous,
000 hectares.
En France, on a vraiment les résidus d'une forêt sur des lieux en général très très pauvres. Mais c'est pas, ça ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas une essence d'avenir, clairement, puisqu'il est hyper adapté au sec, il a toute sa place. Je parle beaucoup de plantes, puis je ne parle jamais assez d'animaux, mais voilà, on est devant une ancienne mare construite, ce qu'on pourrait appeler une gourgue en Cévennes. Et elle est complètement comblée de feuilles mortes et tout ça. Et c'est un peu rouille, ça ne fait pas une eau très appétissante à la boisson, c'est certes, mais la vie est là. Il y a plein d'algues, évidemment. Il y a des dytiques, on a vu des dytiques. Et ce que je cherchais, c'est des larves de salamandre. Les larves de salamandre, c'est la valeur sûre de toutes ces mares qu'on a en forêt. Donc ça fait comme un petit triton, les gens confondent ça avec un triton, sauf que ça a une tête très large, beaucoup plus large que le reste du corps. Et puis si vous regardez les aisselles, elles sont jaunes. Mais là, je cherche, je n'en vois pas, mais je suis sûr qu'il y en a. Et on revient une soirée pluvieuse et je suis sûr que ça balade, les salamandres doivent balader dans la forêt ici. C'est vraiment un grand classique. En tout cas, un point d'eau dans une forêt comme ici, c'est vraiment source de plein de choses. Là-bas, je vois des hépatiques. Ah.
Les salamandres, elles sont protégées, non?
Oui, oui, oui.
Oui.
Tous les reptiles, en fait.
Tous les reptiles.
Et amphibiens.
Parce
et
qu'ils amphibiens, sont un peu menacés de disparition.
Oui, c'est des espèces fragiles avec des habitats qui sont les habitats humides. Tous les amphibiens, c'est les habitats humides et tout ça, clairement, c'est fragile. Puis les reptiles, ils souffrent énormément de la circulation routière, de la cohabitation avec les chats et puis de la réduction des habitats. Ils supportent pas trop les cultures intensives, la coupure des haies, enfin de tous les milieux, les rochers, il y a plein d'évolutions qui ne sont pas favorables aux reptiles, qui sont assez exigeants sur la pauvreté des habitats. Il ne faut pas que ce soit des habitats trop riches.
D'accord.
Il y en a certains qui s'en sortent bien. Je pense notamment à la tarente de Mauritanie, qui est l'espèce qui a une énorme expansion, notamment en Cévennes. Depuis 15-20 ans, on la voit apparaître dans plein de communes.
Qu'est-ce que c'est la tarente?
C'est un petit gecko, c'est pas du tout une tarentule.
Hein, oui.
C'est pas une araignée.
Ouais.
C'est un gecko, en fait, si on l'appelle gecko, mais c'est une tarente de Mauritanie. Donc, comme un gros lézard avec avec une surface très irrégulière, plein d'épines un peu si on veut, d'une quinzaine de centimètres de long, qui a la faculté de poser, j'en ai vu un pas plus tard qu'hier, poser sur une vitre.
Ah ouais.
Il grimpe sur une vitre comme si c'était, si c'était des rochers rugueux, quoi. Avec un petit œil fendu. Et donc lui, il est en train d'avancer et de prendre petit à petit la place du lézard des murailles. C'est-à-dire que là, il chasse de nuit comme de jour, il a un peu un avantage compétitif par rapport au lézard des murailles. Et si ça tombe, c'est peut-être un prédateur aussi. Ça, je ne sais plus, mais en tout cas, là où la tarente progresse, le lézard régresse. Mmh. Voilà.
On est devant une souche. C'était quelle essence là, du coup, qui était présente?
Alors là, c'était un buis de marron.
Enfin,
c'était une jumelle d'ailleurs, parce qu'il y a deux souches qu'on voulait mettre en évidence, parce qu'on en trouve, à ma connaissance, quasiment nulle part. Il était magnifique, très gros pour un buis. Et en fait, la première jumelle, un matin, par pourriture, on ne pouvait pas le déceler, est tombée. Et comme ils avaient poussé ensemble, c'est là aussi où on se rend compte que les arbres, ils vivent avec leur entourage, c'est pas un individu. Les jumelles avaient poussé ensemble, donc il y en a une qui est tombée, et le coup de vent d'après, déséquilibré, ça a arraché la deuxième qu'on voulait conserver. Du coup, on a fait des boutures. On a fait des boutures, il y en a quelques-unes, logiquement, qui ont réussi. On devrait pouvoir le replanter, on espère, quand il sera un peu plus grand. Et le bois a été récupéré par la mairie pour qu'un sculpteur en fasse une sculpture et qu'on vienne le remettre sur place, toujours dans l'idée de conserver l'arbre. Ben ça, c'est Madame le maire, hein, c'est ses idées, très bonnes idées de Julie Lopez, qui s'est dit pourquoi pas en faire quelque chose et le remettre sur le site.
On voit plein de petites fleurs violettes dans cette forêt. Qu'est-ce que c'est, Aymeric?
Eh bien, c'est la dame qui vous met des amandes au bord de la rue, là où vous êtes mal garé. C'est oui. Madame Pervenche.
Oh, la Pervenche.
La Pervenche. Bon, c'est une plante qui fait des tapis en forêt, souvent dans les chênaies. Et c'est une plante qui s'étend par stolon, c'est-à-dire des racines souterraines qui font que la tache s'étend d'année en année. Et quand vous avez une forêt où il y en a beaucoup, eh ben, vous pouvez le relier à l'ancienneté, en fait. C'est pas une plante qui apparaît comme ça du jour au lendemain dans la forêt.
Et on en a vu beaucoup ici.
Ouais, donc ça colle bien. Ouais, quand vous avez beaucoup de pervenches, donc pour décrire la fleur, ça fait une très belle étoile, presque une petite éolienne à 5 branches violettes qui couvre là, tout le sol avec des feuilles lancéolées. Il y en a vraiment partout là. Ouais. Donc oui, ça colle avec l'ancienneté des arbres ici. Ouais.
Et bien voilà, c'était donc Loïc, Virginie, Léo, Aymeric et Margot au Château de Sauvage. On se retrouve le mois prochain pour la deuxième partie de l'émission où on va un peu plus explorer les forêts alentour. Salut tout le monde et à bientôt sur Radio Barthas 107 FM.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h.
Et un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Barthas.
107 FM.
Latitude 500, longitude 36.